et bienvenue pour le 4e numéro d'En Spectateur, votre nouvelle émission culturelle sur les ondes de Transistor. Au programme de ce 4e numéro, nous continuons de faire la critique des spectacles des Cités Muses avec Les Âmes Rouges, de la compagnie La Folie nous suit, et le triptyque autour de Don Juan. Pour cela, autour de moi, ma joyeuse bande de chroniqueurs critiques amateurs que je salue. Bonjour Irène.
Bonjour.
Bonjour Antonio.
Bonjour.
Et Florent.
Bonjour, bonjour.
Mais avant de les laisser parler et d'entamer la critique des deux derniers spectacles des Cités Muses, je vous emmène au Théâtre des Célestins. Du 5 au 31 octobre, le Théâtre des Célestins vous propose la pièce d'Arthur Miller, Mort d'un commis voyageur, dans une mise en scène de Claudia Stavisky. Mort d'un commis voyageur est considéré comme un monument de la littérature contemporaine, presque comme un classique du XXe siècle, témoignage bouleversant sur la classe moyenne dans l'Amérique de la fin des années 40. Le voyageur de commerce, Willie Loman, a fait les beaux jours de son employeur, sillonnant sans relâche les routes du pays pour entretenir sa famille, payer les traites d'un pavillon, élever ses fils. Certain de la considération de son employeur et de la retraite paisible qu'il croyait se préparer, Willie Loman voit le monde se dérober sous ses pieds lorsque l'entreprise le lâche comme un jouet usé. Alors dans son chef-d'œuvre qui lui a valu le prix Pulitzer, Arthur Miller décrit les conséquences ordinaires des très grandes mutations imposées par l'emballement du capitalisme. L'humain et les valeurs morales d'une époque révolue sont rétrogradées par l'avènement d'un modèle dont l'homme n'est plus le centre. Une pièce d'une grande actualité donc, que vous découvrirez au Théâtre des Célestins et que nous irons voir cette semaine, pour vous. Notre critique la semaine prochaine donc. D'ici là, allez voir cette création des Célestins au Théâtre des Célestins pour vous faire votre propre avis et le comparer au nôtre. Vous avez du 5 au 31 octobre pour vous y rendre. Alors on revient à l'ENS et au Théâtre Cantor maintenant pour passer en revue les deux derniers spectacles du Festival des Cités Muses, en commençant par la pièce « Les âmes rouges » jouée par la compagnie « La folie nous suit » le lundi 24 septembre, rappelez-vous. Si ce n'est pas le cas, je vous résume rapidement la pièce. Il s'agit d'une adaptation libre de l'univers du petit chaperon rouge qui voit en fait trois femmes en rouge vivre et s'affronter, de la grand-mère mariée de force à un mari qu'elle n'a jamais aimé, à la mère dont le mari est parti à la guerre et qui s'entraîne à son retour avec sa fille, au petit chaperon rouge, donc, cet enfant qui s'invente des amis imaginaires pour supporter le quotidien d'une vie marquée par l'inceste, les brimades d'une mère sévère et autoritaire, ainsi que les prières au Seigneur, avant d'être jeté sur les routes de la forêt avec son chaperon rouge tissé de mère en fille et de devenir femme. Une histoire sur les non-dits, le silence, une histoire pleine d'horreur, de mort, d'inceste, une histoire avec tout ce qu'il peut y avoir de plus dur, de plus noir, mais également du rire, de la poésie, de la légèreté, de la beauté, de l'espoir. D'habitude, je vous laisse parler en premier, mais là, je vais m'exprimer parce que cette pièce m'a profondément marqué et que j'avais juste envie de dire ceci, merci. Après la représentation des âmes rouges, c'est le seul mot qui soit, c'est le seul mot qui compte, merci. Faut-il vraiment trouver des mots pour tout, des raisons à tout ? Parfois, c'est beau, juste beau, mais beau dans son sens plein, fort, essentiel. Alors à quoi servent les mots, sinon à gâcher la magie de cette beauté? Mais cette année, émission Spectateur oblige, c'est moi qui l'ai écrit, je sais de quoi je parle, il me faut trouver des mots, écrire une critique, alors je me lance. Merci d'avoir créé du beau, donc, avec un simple tissu rouge, avec des lumières et de la musique, avec un jeu d'acteurs d'une justesse rare. Merci d'avoir créé du beau là où il n'y en a pas, dans le malsain d'un ménage à trois ordinaire qui réussit à faire passer le loup pour un loulou, pour un sale gosse, gémissant, c'est pas moi. Merci d'avoir fait surgir le rire aussi, au milieu des morts, des incestes, des ténèbres d'une vie que nous avons en partage. Merci d'avoir fait surgir un rire auquel d'abord on n'ose pas s'adonner, parce que rien n'est drôle, parce que tout est sale, parce que tout ressemble aux horreurs humaines qui menacent nos vies. Merci d'avoir fait surgir un rire auquel enfin on ose s'abandonner, un rire cathartique, un rire couleur d'espoir. Merci enfin d'avoir fait surgir une nouvelle fonction pour le rire, pour le comique, comme une politesse face au malheur, parce qu'après tout, le loup a raison, tout cela n'est qu'un jeu. Merci d'avoir changé ma vision du petit chaperon rouge et ce n'est pas rien. Tout le monde connaît ce conte, il y avait les versions immuables et orales du temps jadis. Il y eut la version de Perrault, puis celle des frères Grimm, il y a maintenant Les âmes rouges. Merci d'avoir bouleversé le théâtre, sans l'air de rien, sans prétention. Vous n'êtes pas venu en étalant des idées méta-théâtrales, méta-textuelles, méta-métatesques. Vous n'avez pas voulu faire moderne à tout prix, avant-gardiste et autres nouvelles scènes. Vous n'avez pas repris les codes contemporains, soi-disant novateurs, déjà figés, déjà datés, de ces pièces où on finit forcément nu, sur une scène couverte d'eau, de peinture et autres matières, devant un écran vidéo, après avoir transgressé l'espace scénique pour prendre à partie le spectateur. Non. Vous êtes arrivé sans prétention, vous repartez avec beaucoup d'innovation. Merci donc d'avoir fait du théâtre, dans sa pureté, moins dans un acte de création d'un spectacle que dans un acte de recréation du théâtre lui-même, dont vous avez assumé les codes pour mieux les décoder, les recoder. De la scène d'exposition muette, qui se déroule 40 à 50 ans avant l'action de la pièce, à la fin courte, rapide et brutale, qui, comme le disait Gide de ses récits, est écrite comme la chute d'un sonnet, pour que le récit reste et marque le spectateur, pour que ce dernier ait envie de voir de nouveau la pièce, comme on relit un sonnet. Bref, tout dans Les âmes rouges est neuf et stimulant, comme l'éclosion ou le renouveau d'une voix au théâtre, où les paroles sont comme secondaires, au service des lumières, des musiques, des gestes, des mouvements et de la chorégraphie des corps, tantôt attirés, tantôt repoussés, les uns contre les autres, dans un rythme enlevé où alternent scènes de tension et de détente, où tous les registres se mêlent et s'entremêlent. Bref, du théâtre pur aurait jugé bon marché. Merci infiniment à vous, Marielle Hubert, Lucille Duplat, Maude Foissier, Margot van der Hague, Yazan Almachny, Céleste Bruandet, Maria Yalopoulos et Rachel Fernandez. Et un seul souhait, pour reprendre le nom de votre troupe, que cette folie nous suive longtemps. Alors, pas sûr que tout le monde ait été aussi amateur de ce spectacle que je ne l'ai été. Alors, par exemple, Antonio, qu'est-ce que tu en as pensé ? Est-ce que tu es d'accord avec moi ? Ça a changé ta vision du théâtre ou je me suis un peu enflammé ?
Alors, il y a toujours dans tous les contes le jeune personnage plus ou moins naïf qui croit un peu tout ce qu'on lui raconte. Et en face de lui, le rôle du méchant, cynique, sceptique et désabusé, qui essaye de détourner ce petit personnage naïf du droit chemin pour lui faire voir autre chose.
Donc merci, c'est moi le personnage naïf, c'est ça ?
Je ne sais pas, mais en tout cas, je veux bien assumer le rôle du méchant, enfin méchant avec tous les guillemets que vous voudrez, vis-à-vis de ce spectacle. Bon, effectivement, ici, le parti pris du spectacle est délibérément psychanalytique, en mettant en relief les rapports mère-fille, aussi bien entre le personnage de la grand-mère, la mère, et enfin le petit chaperon rouge à proprement parler, pour vraiment relever, mettre en valeur ce dont tu as parlé, pour reprendre tes termes Thomas, l'horreur, le noir, tout ce qui relève un peu du cauchemardesque. Effectivement, c'est assez jubilatoire en tant que spectateur de voir comment s'entremêlent dans ce spectacle différentes strates temporelles et familiales, comment l'on passe d'une actrice à l'autre, d'une génération à l'autre, comment les traumatismes de chaque femme irriguent toute cette famille, remontent tout l'arbre généalogique, donc, pourrait-on dire, et comment cela affecte l'espace, la mise en scène. Enfin, j'ai trouvé ça très, très, très intéressant. Tu parlais de ce tissu rouge qui est extrêmement bien utilisé, qui est un accessoire qui ne mérite plus son nom d'accessoire, qui est vraiment central dans ce spectacle. Mais en définitive, tout cela m'a paru un peu formel, comme un jeu de construction virtuose, comme un art de la variation qui ne veut rien d'autre que la variation pour la variation, ou au moins qui recherche l'explicitation d'une certaine dimension du conte pour l'appuyer. Donc cet aspect, pour le dire en un mot, donc psychanalytique du petit chaperon rouge. Dimension un peu formelle, je n'irai pas jusqu'à dire qu'elle est vaine, mais ça m'a paru en tout cas formel, qui se retrouve de manière très évidente et très appuyée, pour reprendre un terme que je viens d'utiliser, dans le jeu, qui a paru à beaucoup de monde, dont je fais partie, assez outrancier, comme si les acteurs avaient délaissé leur visage, on les voit avec des masques au début, et ne revêtaient que des masques, pas forcément des masques véritables, matériels, en carton, en plastique, comme à l'ouverture du spectacle, mais de véritables grimaces qu'ils arborent avec de très nombreux tics et qui peuvent finir par agacer. D'un autre côté, tout cela reste relativement cohérent avec le parti pris général du spectacle, qui se présente comme une sorte de cérémonie fantastique orchestrée par ce personnage du roi, dont l'acteur sait très bien jouer justement des potentialités de son visage, avec un sourire particulier, un regard très maîtrisé.
Et en même temps, voilà, ce qui m'a aussi touché, et je rebondis sur ce que tu dis, c'est que cette pièce, et c'est ce que j'essayais de dire dans le papier que voilà, je défends, c'est que cette pièce, elle montre qu'au théâtre, la parole, elle peut aussi céder le pas à d'autres choses. Et c'est pourquoi, à mon avis, peut-être toi, tu as été moins sensible à ça, mais c'était vraiment un parti pris des acteurs de montrer qu'on pourrait couper le son avec notre télécommande et on comprendrait toute la pièce. Rien qu'avec, alors toi tu accentues les mimiques, etc. Moi ça m'a pas forcément beaucoup gêné, mais bon, je peux comprendre que certains l'aient été. Par contre, moi ce à quoi j'ai vraiment été sensible, c'était l'attraction des corps. On pouvait tout comprendre, l'attraction ou la répulsion qu'il y avait entre les corps, et on pouvait tout comprendre, des rapports de force, pour parler là vraiment de langage théâtral, rien qu'avec ça, et les mots parfois ne faisaient que commenter les gestes ou voilà, les mouvements ou certaines lumières, et étaient parfois superfétatoires.
Oui, d'ailleurs, moi je pense que la question du silence était très importante, la question des scènes muettes, parce que ce que nous racontent les âmes rouges, c'est comment on essaye de mettre des mots, comment on essaye de développer des histoires autour de manques, autour de trous, notamment la scène de la forêt. Comment on l'explicite d'un point de vue psychanalytique, encore, qui t'a gêné, sur la sexualité? Comment on explicite ce qui n'a jamais été expliqué? Pourquoi est-ce que la mère envoie le petit chaperon rouge à travers la forêt? Et toute cette explicitation, que tu peux trouver psychanalytique, parfois venait en but à des silences, ces scènes muettes dont parle Thomas, ces scènes muettes qui sont plus éloquentes, pour reprendre... un paradoxe assez déjà vu, qui sont plus éloquentes qu'une explicitation, parce que ces scènes muettes disent des tragédies qui seraient inacceptables sur scène.
Et par exemple, juste moi, il y a un moment dans la pièce, je me suis dit, tiens, on va voir si ce que je pense, justement, ce que je dis du jeu est vrai ou pas. C'est le moment où la mère reçoit la lettre et annonce la mort de son mari. Si on était vraiment dans un jeu poussé à outrance et un peu caricatural, comme tu le dis, ce qu'elle aurait fait, c'est qu'elle aurait ouvert la lettre et qu'elle se serait mise à hurler. Et ça, je me suis dit, si elle hurle, c'est que c'est un mauvais jeu d'acteur. Alors évidemment, c'était juste sur une petite scène, mais parce que dans la vie, c'est pas comme ça. Et justement, j'ai trouvé que... Alors, c'est peut-être un jeu un peu classique, tu me diras, mais j'ai trouvé qu'elle respectait vraiment, c'est peut-être psychologique aussi, ce qui se passe vraiment dans la vie quand on a un décès. On ne se met pas à hurler et à pleurer tout de suite. Et j'ai trouvé que le jeu était très fin et que, aussi, cette parenthèse et ce silence, cette ellipse dont tu faisais à laquelle tu faisais référence, Irène, elle était bien parce qu'on quitte un petit peu le personnage de la mère et après, quand t'es passé du temps... On l'entend pleurer et crier, mais pas de façon démesurée non plus. Donc effectivement, et c'est là que je me suis dit, d'accord, donc ce qui peut être un petit peu exagéré parfois dans la gestuelle, elle est là pour nous montrer justement ce que je te disais, que le silence et la gestuelle ont des rôles et des places au théâtre, et que les âmes rouges essayaient de leur redonner.
Et autre chose, je pense que ces mimiques très accentuées, moi par exemple, elles m'ont dérangée dans Cassandre, parce que parfois c'était des tics d'acteurs qui se laissaient aller en roue libre à leur préférence. Alors que là, c'était des mimiques expressément faites pour rentrer dans ce monde enfantin de l'imagerie, de la grimace. Et ces scènes et les scènes muettes répondaient tout à fait à cet imaginaire, puisqu'on voyait des personnages danser, on voyait des personnages jouer, comme le personnage du petit chaperon rouge. C'était effectivement des codes.
Bon, alors j'ai envie de dire parole à la défense ou à l'accusé, je sais pas comment dire, Antonio.
Je suis bien d'accord avec vous. Ce que je voulais dire.
Ah, quand même.
C'est. Donc tu barreras. C'est pas cette explicitation qui m'a dérangé.
Tu bifferas dans ta chronique le côté naïf, d'accord, hein.
Je le garderai, mais tout va changer.
Grand méchant
doux. C'est pas l'explicitation du conte ou ce qui lui est sous-jacent qui m'a dérangé. C'est, pour le dire très rapidement, sa réalisation dans laquelle, à mon avis, manque des contrastes ou des nuances qu'on aurait pu avoir et qui auraient permis de nous présenter des personnages moins univoques, en tout cas. Tu évoquais la scène où la mère reçoit la lettre qui lui annonce la mort de son mari. Et je te rejoins complètement là-dessus, puisque précisément, pour moi, la scène entre le petit chaperon rouge et sa mère, toute cette assez longue scène qui précède le départ de la petite fille vers chez sa grand-mère, m'avait paru très intéressante, puisque précisément ici, chaque personnage en lui-même et les relations entre ces deux femmes n'étaient pas univoques, n'étaient pas simplifiées, pour ne pas dire simplistes. Puisque à la fois la mère utilise sa fille comme une sorte d'objet du désir avec ses répétitions du retour du père, mais en même temps, elle s'en justifie, elle la maltraite, elle fait preuve de tendresse aussi. Il y avait toute une relation relativement complexe et intéressante en elle-même qui se tissait ici et qui s'est perdue en cours de route, de la même manière que le petit chaperon rouge se perd dans la forêt en allant chez sa grand-mère. Et quand elle arrive chez sa grand-mère, c'est... transformation est pour ainsi dire complète, puisque nous n'avons pas une grand-mère dans un lit, mais une actrice qui singe la grand-mère avec des tics constants, des froncements de sourcils intempestifs, des bouches qui se tordent à tout va, moins pour jouer la grand-mère que pour nous dire « Regardez, je suis la vieille grand-mère qui souffre dans son lit ». Et c'est un peu ça que j'ai regretté et qui est pour moi... révélateur d'un parti pris plus général dans le spectacle. Mais cela étant dit, j'ai trouvé assez belle la tension dans ce spectacle entre un aspect entre guillemets plus intellectuel sur une lecture du conte, sur la façon de représenter un conte aujourd'hui sur scène, et une réalisation plus intuitive, onirique et même cauchemardesque, notamment au début. Dans cette longue introduction dont la construction est pour moi parfaite et très intéressante, et aussi dans les scènes entre le petit chaperon rouge et sa mère.
À la limite, ce qu'on pourrait reprocher, c'est sa facilité, c'est le confort dans laquelle elle nous installe, même s'il y a des scènes obscènes, notamment la scène d'accouchement particulièrement... Oui. Particulièrement surprenante.
C'était pas la pire, celle-là. Mais...
Et spectaculaire.
Elle était très belle, quand même, cette
scène. Elle était très belle. Très belle. Et c'est moi, et ce que je remarque, et c'est ce qu'on remarque parfois dans les mauvais films, c'est cette présence constante de la musique de fond, censée nous faire passer une émotion, et qui parfois, dans cette pièce, m'a un peu dérangée. Mais je ne saurais pas vraiment dire pourquoi. Est-ce que c'est parce que j'ai été moi-même naïve? Est-ce que j'ai été jouée? Est-ce que c'est ça qui me rend la chose inconfortable? Mais en attendant, c'était un véritable plaisir d'enfant. Et j'ai grandi en même temps en réfléchissant à cette pièce.
C'est un autre naïf qui va poursuivre ta réflexion sur la musique. Parce que je suis d'accord avec toi, la musique avait un grand rôle. Par contre, je ne pense pas qu'elle était là pour nous donner, ressentir certaines émotions. Je pense qu'elle était plus là comme un code aussi. Qu'elle donnait une couleur, une atmosphère et aussi une indication de temporalité. Et alors après, j'ai justement trouvé que les musiques étaient particulièrement bien utilisées parce qu'on se disait, oui, c'est cette musique-là qu'il fallait pour cette scène-là et pas une autre. Donc voilà, je te rejoins pas tout à fait là-dessus. Par contre, je suis d'accord avec toi, on passe un moment qui est fort parce qu'on passe un bon moment. Ça, c'est important quand même quand on va au théâtre, quand même. Et on passe un moment aussi fort en nous-mêmes parce qu'on se dit, mais mince, là, ce qui se passe sur scène, finalement, c'est quoi? Ben, c'est la vie. On change radicalement d'univers pour évoquer maintenant le triptyque autour de Don Juan. Triptyque qui commençait par la soirée Le Connard ou l'Amoureux en salle festive le vendredi 21 septembre. Au soir, alors je renonce à faire le résumé de cette soirée, on comprendra pourquoi, et je te refile le cadeau Florent pour que tu nous expliques ce qui s'est vraiment passé le vendredi 21 en festive.
Don Juan partie 1, le connard. Là j'attends enfin la fonction sociale que je suis censé remplir dans cette émission, être le lama de la critique scénique. Mais bon, si comme l'a dit un grand philosophe et poète, il y en a des biens, je pense qu'il aurait dû ajouter « il y en a qui méritent ». Qui mérite quoi? De s'en prendre plein la gueule, et c'est pas Pascal qui dira le contraire. Une idée lumineuse, très contemporaine. Eh, dis donc, si on jouait une pièce au milieu d'une soirée en faisant croire que c'est une vraie soirée? Ah ouais, super! Par l'idée alléchée, je m'y précipite en me disant que peut-être cela sera grandiose. Je ne vous cache pas ma déception. Salle vide, car la communication avait été mal faite. Musique, à peu près la même que d'habitude, à fond pendant les scènes. mur recouvert de chansons d'amour mal traduites. Il y avait un ordre avec des numéros, mais j'ai pas compris. Le public de la festive était composé à 67% très exactement de figurants de la pièce, qui, eux, avaient répété. En fait, à mon avis, ils auraient dû faire répéter le public afin qu'on sache quand et où regarder, qui étaient les personnages et ce qu'ils déclamaient en mode comédie française 1930. En effet, ne pas baisser le volume de la musique pendant une scène nuit à la compréhension de celle-ci. Exemple de ressenti sur le terrain en presque direct. « Ah merde ! C'est Sganarelle, je croyais que c'était le commandeur !»« Mais non ! Le commandeur, c'est celui qui se frotte lassivement sur la porte. » « Ah bon ? C'est pas Don Juan, lui ?»« Ah, peut-être. Enfin, de toute façon, on s'en fout, on n'entend pas ce qu'il dit. » Je pose la question, du coup. Allons-y, pourquoi ne pas distribuer un mode d'emploi de la pièce à l'entrée ? Parce que là, le résultat était pour le moins fumeux. J'ai eu l'impression d'être dans un very bad trip, avec des souvenirs vagues d'une soirée chelou où les gens auraient tous pris de la drogue et auraient eu des problèmes de pétrification synchronisée, avec cependant trois inconvénients par rapport à une soirée défonce. 1. La drogue n'était pas distribuée au public. 2. Il n'y avait pas de tigre pour égayer la soirée. Et 3. J'ai eu la nette impression qu'on me vomissait dans la bouche et qu'il fallait de surcroît dire merci. Cela dit, les acteurs et figurants avaient l'air de prendre leurs pieds, donc bon, hein, on va pas les empêcher de jouer, ma brave dame. Cela dit, quand on se masturbe, en général, on n'invite pas les gens à regarder parce qu'on s'ennuie ferme. Finalement, les rôles que j'ai préférés, ce sont les agrégatifs de Matsu, que le metteur en scène a courageusement inclus dans la pièce de Molière, et qui joue avec un naturel non fin. Félicitations pour cette audace.
Je suis assez d'accord avec toi, Florent, sur cette contradiction entre un spectacle qui, en tout cas, semble se vouloir expérimental et assez osé dans sa réalisation, en faisant jouer à des acteurs Don Juan à l'intérieur d'une soirée. Et contradiction donc avec un jeu et une déclamation qui rappellent le cliché que nous avons tous de la comédie française, ou du moins d'un jeu très, très classique. Contradiction aussi que j'aimerais poursuivre entre une idée de base, enfin un parti pris de départ de cette proposition, parti pris qui colle à mon avis très bien à l'esprit de la pièce, à Don Juan ou le Festin de Pierre, avec le fait de représenter ce qui, en principe, devrait se faire dans une salle, comme le théâtre Cantor, par exemple. Je m'explique. Quand nous pensons à Don Juan, nous voyons tous cette grande figure de la maîtrise, ce noble qui n'est pas noble que socialement, mais qui est aussi dans tous ses rapports avec les hommes et les femmes, évidemment, souverain qui utilise chaque individu comme un objet propre à satisfaire son désir, dans la mesure où il ne semble pas redouter la mort, il ne semble pas non plus redouter ce qu'il y a après. L'idée de départ donc de ce spectacle semblait tout à fait bonne, une bonne idée d'inclure ce personnage dans une soirée, ne serait-ce que par association sémantique. Don Juan ou le Festin de Pierre, quel meilleur endroit pour représenter ce spectacle qu'à l'intérieur même de ce festin, comme si l'on commençait la pièce par son achèvement. Il n'est pas besoin non plus de préciser tout ce qui se passe à l'intérieur des soirées ou des fêtes, toute la séduction qui s'opère. Et enfin, le jeu avec l'aléatoire et avec l'imprévu, autant d'éléments avec lesquels les comédiens doivent composer et qu'ils doivent affronter au cours de cette soirée qui s'annonçait donc très particulière.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Le parti pris était donc risqué, il s'agissait d'un pari qu'il fallait tenir jusqu'au bout, et de même que l'on peut arriver à une soirée dans laquelle on ne connaît personne et finalement on boit sa bière dans un coin jusqu'à la fin et on part sans avoir l'impression d'avoir participé à la soirée. Triste.
Je sens une critique parce que je t'ai lâché au bout de 5 minutes, c'est ça ?
Tu nous racontes quelque chose qui t'a profondément touché, Antonio.
Eh bien là, vous ne croyez pas si bien dire, mais je ne me suis pas senti à l'intérieur de la soirée. Pour moi, quelque chose n'a pas marché. Alors, j'ai eu l'impression que beaucoup de monde se prenait au jeu, j'ai vu beaucoup de personnes se jeter par terre ou s'arrêter comme si on congelait l'image. Je viens d'apprendre par Florent qu'il s'agissait de figurants. Enfin, c'est à vérifier. Mais du moins, c'est bien là le signe de mon incrédulité, comme si j'avais été parachuté là sans être prévenu de ce qui allait se passer, alors que pourtant, c'était le cas. On pourrait donc se demander à quelles conditions est-ce que ça aurait pu marcher, s'il n'aurait pas fallu, justement, laisser tomber les bons vieux codes du théâtre, les bonnes vieilles manières de représenter les scènes, pour proposer quelque chose de véritablement nouveau, puisqu'en fait, il s'agissait là d'une soirée qu'on mettait parfois sur pause pour représenter des petites scènes ou des extraits sans que ces scènes ou ces extraits puissent être véritablement appréciés pour les raisons que tu viens de dire, Florent. Et sans que la soirée en elle-même ne prenne non plus. Au final, beaucoup de gens ne se sont ni amusés dans la soirée, ni ont été amusés par le spectacle. Je disais tout à l'heure que Don Juan était une figure du maître, de celui qui n'a pas peur de la mort et qui n'a pas peur du ridicule. Et c'est pourtant bien ce à quoi on s'expose avec une proposition pareille.
Alors pour ma part, je trouve que c'était, comme toi, Antonio, une bonne idée. Mêler ainsi l'univers de la fête et celui de Don Juan, ainsi que mêler une fête à l'ENS à une représentation de théâtre. J'étais particulièrement attiré par cette idée. Mais la mise en pratique de l'idée était... comment dire ? Alors pendant la soirée, je n'avais pas de mots, mais il m'est venu une chanson, le refrain de la chanson ASD de Mademoiselle K. Alors pour reprendre cette chanson, je dirais que j'aurais préféré être aveugle et que j'aurais peut-être dû être défoncé pour comprendre le sens de ce qui se passait devant moi, mais que sinon, étrangement, je n'ai pas passé une mauvaise soirée. L'ambiance était, oui, spéciale, mais conviviale. Et surtout, je tenais à tirer mon chapeau à Marceau, resté statufié plusieurs heures durant après le spectacle, malgré tous ceux qui sont montés sur le podium pour l'embêter. Mais bon, Don Juan, c'était pas juste cette soirée qu'on a plus ou moins appréciée, même plus moins. C'était aussi le lendemain, le samedi, sur le site Mono, un autre exercice, là aussi risqué, et c'est Irène qui va nous en parler, c'était sous forme de déambulation, n'est-ce pas ?
Alors oui, Don Juan, les lectures littérales mises en scène en improvisant, c'était donc une mise en scène improvisée avec le rôle du metteur en scène qui se promenait parmi ses acteurs qui, tour à tour, pouvaient prendre le rôle qui les amusait. Alors, c'était une véritable épreuve physique, il faut le dire, parce qu'ils n'ont pas arrêté de bouger, il fallait les suivre partout. Mais ce qui était vraiment intéressant, c'était le parti pris de cette initiative laissée aux acteurs, dans leur spontanéité, et qui, en fait, renforçait le mythe de Don Juan et exprimait vraiment le rapport au langage et au rapport au langage qu'a Don Juan. C'est-à-dire ce rapport trompeur, ce rapport vide, ce rapport séducteur et véritablement manipulateur. Car qu'est-ce qui nous arrivait ? Ou qu'est-ce qui m'est arrivé, puisque j'étais bien seule, il n'y avait pas grand monde, malheureusement.
Désolée, Irène.
Non, mais pas seulement vous, je veux dire, l'ENS a un peu déserté le deuxième volet.
Donc si tout l'ENS nous écoute, vous avez des comptes à rendre à Irène. Voilà.
C'est encore une proposition audacieuse qui n'a pas pris. Enfin, c'est difficile le lendemain d'une soirée de vouloir emmener tout le monde dans une déambulation à 14h.
De 3h.
Voilà.
Donc, et là, il parle en connaissance de cause parce qu'il aurait dû aussi, Antonio, aller voir le spectacle. Honte à toi.
Donc, ce qui se passait, c'est que les acteurs, comme des chiens fous, pris par la beauté du texte ou par le bonheur de jouer Don Juan, nous emmenaient et littéralement nous faisaient marcher, ils nous faisaient balader. Et vraiment, on s'asseyait 5 minutes et puis on repartait. Et vraiment, c'était réussi parce que parfois, ils investissaient un lieu, notamment le hall, le Mono, de manière tout à fait judicieuse, notamment quand on se trouve le long du rivage et qu'à ce moment-là, dans le hall de Mono, il y avait une fontaine et ce bruit de l'eau qui berçait les paroles des acteurs. Et l'invention aussi, c'est que chaque acteur pouvait prendre le rôle qu'il voulait et il pouvait même le prendre ensemble, ce qui fait que ça, alors que ce théâtre n'était pas sur scène et donc pouvait perdre de sa force et de son éloquence puisque on devait les suivre, on pouvait pas tout restituer. Ce qui se passait, c'est que parfois un personnage était joué en même temps par 5 acteurs, ce qui renforçait l'expression du texte. Et on avait tout le long de cette déambulation, on nous représentait le parcours du texte à la mise en scène, à la mise en mots et au jeu d'acteurs. Et ça, c'était vraiment très intelligent. Cependant, il y avait un rôle qui n'allait pas, c'était le rôle du metteur en scène, parce que, tout simplement, il venait emmerder tout le monde. Il venait refaire faire les scènes, il venait refaire jouer, il disait...
Florent qui dit des gros mots dans l'émission, pas toi.
Je m'amende. Il venait vraiment nous casser les pieds pour reprendre le fait qu'il nous a aussi fait marcher. Il n'était jamais content, surtout à la fin. Et cependant, il ne nous faisait jamais... Il ne faisait jamais refaire la scène de manière novatrice. C'était toujours les mêmes procédés parce que, en fait, accablé par la fatigue, j'imagine, il devait tout simplement manquer d'inventivité et il était un peu ridicule. Donc, à force de nous faire marcher, ça a complètement piétiné. Et la fin était ratée, même si les idées étaient excellentes et parfois des moments merveilleux.
Alors, troisième partie de cette mise en scène de Don Juan, c'était une représentation plus classique, sur le papier en tout cas, en théâtre Cantor. Alors là, je suis le seul à pouvoir en parler puisque j'étais donc le seul de la petite bande dans la salle. Et le problème, c'est que tout m'a heurté dans cette mise en scène, tout. J'avais envie de partir au bout d'une heure, mais comme il fallait bien que je fasse une chronique, je suis resté. Ce qui peut augurer de mon état à la fin du spectacle. Bref, tout m'a heurté de la mise en scène qui oscillait entre le classicisme d'une mise en scène terre à terre qui répondait à la lettre aux indications du texte, quand par exemple le costume de Don Juan se trouve justifié mot par la description que fait Sganarelle d'un mauvais maître à qui il parlerait dans l'acte 1, quand évidemment Sganarelle se change en médecin à l'acte 4. Et donc, oscillant entre ce classicisme, ce côté terre-à-terre de la mise en scène, et une modernité poussée à l'extrême, puisque oui, forcément, cela finit avec des acteurs dévêtus, forcément, la scène est pleine d'eau, de terre, sans qu'il n'y ait vraiment un sens, parce qu'on l'a vu avec Cassandre, il peut y avoir de la matière lancée, il peut y avoir une transgression de l'espace scénique, mais si ça a un sens dans la pièce, eh bien, pourquoi pas, moi je suis tout à fait preneur. Le problème, c'est que là, ça faisait un peu cliché. Je parlerai aussi des lumières aveuglantes des spots sur la scène qui m'ont beaucoup intrigué. Je trouvais ça très bien. Au début, j'avais cru repérer qu'elle s'illuminait plus quand Don Juan était d'un certain côté de la scène et qu'elle suivait donc Don Juan. Mais à des moments, elle clignote sans que Don Juan soit vraiment sur scène ou qu'il n'y ait un rapport avec ses déplacements. Du coup, on a l'impression que c'est juste un peu un sapin de Noël sur scène et on ne voit pas très bien le sens. Donc, ce qui m'a heurté aussi, c'est le fait que forcément, le comique virait tout le temps à la farce et au grotesque. Alors, ok, du coup, les spectateurs riaient. Mais c'est tellement facile de faire rire par la grosse et bonne farce. Et on est aussi aux antipodes de Don Juan. Parce que, ok, Don Juan, il y a des choses qui font rire et il y a des choses magnifiques. Voilà, c'est une comédie aussi, mais ce n'est pas que ça. Et en tout cas, il n'y a pas que le registre grotesque et farcesque dans Don Juan. À croire finalement que Don Juan, c'était le discours entre Pierrot et Charlotte du début à la fin. Alors, il faut dire aussi que certes, les spectateurs riaient, mais qu'ils riaient aussi quand il y avait un peu les imprévus qui venaient mettre du sable dans la roue du spectacle, quand par exemple des comédiens tombaient à cause de l'eau balancée sur la scène. Bah oui, là on voit les limites de la représentation contemporaine.
Ça me fait bien rire.
Alors, tous les acteurs, ce qui m'a heurté aussi, c'est qu'ils étaient tout le temps dans le même registre du début à la fin. Il y avait très peu de changements, même chez Don Juan, à part qu'il ralentissait un petit peu son phrasé qui restait, sans que je puisse comprendre pourquoi, toujours haché. Et ce qui m'a heurté, c'est que oui, d'accord, alors on a compris au début que Don Juan, il attire tout le monde, il fait se tourner vers lui tous les regards, il est séduisant par la parole et par l'apparence, que voilà, tout tourne autour de lui dans la pièce, à qui il donne son nom, ça tombe bien, ok. Mais quand on a fait ça à un acte, on peut peut-être un petit peu évoluer. Et c'était systématique, cette fascination qui, du coup, à la fin, finissait par lasser. Aussi, dans l'interprétation, forcément, tous les personnages se sont mis à crier à un moment de la pièce. Alors, le cri, c'est porteur de sens. Sauf que quand on crie tout le temps, eh ben, il n'y a plus de sens. Et c'est exactement comme l'eau qu'on balance ou comme les lumières qui s'allument. Ce qui, au début, pouvait avoir un sens. Après, quand on le répète et qu'on le tord dans tous les sens, eh ben, ça finit par être gadget, tout simplement. Face aussi sur certaines scènes qui, pourtant très importantes, ont été tout simplement ratées. Je prendrais qu'un exemple, une des scènes phares, selon moi, de Don Juan, c'est la rencontre avec l'ermite, où il y a vraiment, en termes de rapport de force et un magnifique jeu à faire sur scène, et qui là a tout simplement été raté, puisque c'est le même acteur qui jouait Don Juan et l'ermite, sauf que tout allait trop vite, qu'il ne changeait pas de voix, et que du coup, on ne comprenait rien à ce qui se passait, et que tout le rapport de force qu'il y a entre Don Juan et l'ermite dans le texte de Molière, eh bien, passait à la trappe. Bref, vous l'aurez compris, et je ne vais pas m'étendre plus, j'avais beaucoup d'autres choses qui m'ont heurté, mais voilà, vous l'aurez compris, je n'ai pas du tout, mais alors pas du tout, adhéré à la représentation proposée de cette si belle pièce qu'est Don Juan, et que j'ai trouvée ici, martyrisée.
Pour revenir sur la dimension farcesque de cette pièce, on voit bien qu'avec la dernière mise en scène qui a été donnée à la Comédie française, Don Juan, c'est aussi une pièce intellectuelle, une pièce philosophique. Et dans cette mise en scène de Jean-Pierre Vincent, qu'on peut penser un peu lassante, un peu sèche, beaucoup moins farcesque qu'on pourrait l'attendre, beaucoup moins virevoltante, le discours philosophique et les échanges verbaux, argumentatifs sont mis à l'honneur, et il faut aussi savoir que Don Juan, c'est une pièce de pensée et une pièce qui a un poids terriblement important à son époque sur le comportement des hommes par rapport à leur raison et par rapport à Dieu.
Après, ce qui m'a gêné là, c'est pas que c'était pas une pièce intello, justement, mais ce qui m'a vraiment gêné, c'était que, alors que Don Juan, ça fait rire, on est d'accord avec ça, c'est aussi une comédie. Eh bien, le seul moyen de rendre le comique, c'était la farce ou c'était le grotesque. Et il faudrait relire la pièce de Don Juan pour citer des passages où le comique qu'il y a dans les passages n'est pas du registre farcesque et grotesque. C'est pas une farce, Don Juan. Il y a des passages qui sont de farce ou qui peuvent être interprétés comme ça, mais réduire le comique de Don Juan à de la farce, c'est appauvrir complètement Don Juan. La farce, ça a aussi quelque chose de très lourd. Et quand c'est le seul comique qui est là, ça dévalue le comique et ça nous donne plus envie de rire. Alors bon, ça c'est mon avis, peut-être que je ne suis pas du tout rentré dedans et que j'ai eu tort et que je commets une grande injustice. Alors si vous, auditeurs, vous avez quelque chose d'autre à nous dire sur ce triptyque qu'on a quand même été malmené, voilà.
Il y avait quand même des bonnes choses qu'on a pointées et
oui,
qu'il faut retenir.
Mais oui, c'est vrai.
Je précise ça pour que les critiques ne paraissent pas trop virulentes a posteriori.
Mais soignez bien vos arguments quand même, si vous voulez nous montrer qu'on a été particulièrement injuste et méchant, parce qu'on risque d'être quand même pas très facile à convaincre. Ou alors, si vous voulez nous insulter, eh ben, vous pouvez y aller. Alors, je vous rappelle que pour les insultes, les commentaires, c'est juste en dessous du podcast que vous êtes en train d'écouter, sur la page de l'émission. C'est maintenant la fin de l'émission, merci de l'avoir suivi. Un grand merci à Antoine, à la technique. Cette semaine, vous retrouverez également deux autres émissions dans Spectateur. Une émission que vous avez certainement déjà écoutée qui revenait sur les deux premiers spectacles des Cités Muses, Cassandre et Identité, Pirandellisme et Tara Humara. Une autre, une émission spéciale consacrée à la programmation de l'Amphithéâtre de Lyon et que je vous encourage à écouter puisque nous avons eu la chance de rencontrer Daniel Ivinec, grand musicien, grand nom du jazz, qui a travaillé avec les plus grands et qui est depuis 2008 le directeur artistique de l'Orchestre National de Jazz, et ce, jusqu'en 2013. Alors, il nous a accordé une interview exceptionnelle. C'était vraiment une belle rencontre, à écouter donc dans le 5e numéro d'En Spectateur. N'oubliez pas que sur la page en plus de notre site internet, l'équipe d'En Spectateur vous propose de retrouver à l'écrit et en version longue les critiques des spectacles qu'elle vous propose dans son émission. Vous pourrez notamment retrouver des critiques sur Les Âmes Rouges. Toujours sur la page en plus, regardez un petit peu en haut. Eh bien, grande nouveauté, vous pourrez découvrir à la place de l'inanérable dessin que nous avait fait Plantu, un nouveau dessin réalisé par Mallory Franck. Sinon, sur les antres transhistoriennes, ne manquez pas le premier numéro de l'émission la plus originale de la rentrée, Existence, pilotée par Marie-Ève, une émission sur la vie et sur la foi, consacrée pour son premier numéro à la colère. Sinon, Cyril vous propose également cette semaine de mettre une pièce dans son jukebox. Vraiment hilarant. Je vous laisse donc en bonne compagnie et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'En Spectateur où nous recevrons notamment l'équipe du prochain spectacle programmé par en scène en Théâtre Cantor, la tragédie de Corneille, Suréna, jouée par la compagnie La Lumineuse, et où nous ferons également la critique de la pièce Mort d'un commis voyageur d'Arthur Miller, jouée au Célestin et que je vous présentais tout à l'heure. D'ici là, Surtout, n'oubliez pas d'aller au théâtre, à l'opéra ou au cinéma. Bref, n'oubliez pas de vivre en spectateur.